era peregrino y váyate con Dios. Bon chemin pour le Rhin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, hein, Jean-Yves. Une émission proposée donc par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Et vous avez bien raison. Jean-Yves, tu te sens en forme pour 25 minutes ?
Oui, en forme, oui, bien sûr.
Alors, aujourd'hui, on va parler du mot écurie, Jean-Yves. Alors, si les vaches vivent dans une étable, hein, bien sûr, les chèvres dans une chèvrerie, ou encore les moutons et les brebis dans une bergerie, on peut dire aussi le chien dans un chenil, hein, les chiens dans un chenil, hein, les chevaux, eux, sont logés dans une écurie.
Une écurie, oui.
Alors, selon l'animal, le nom de sa maison varie un peu, hein, bien sûr. On va pas parler d'une étable de chevaux et d'une écurie de vaches, par exemple.
Mais oui, bien sûr.
Alors, au tout début du XIIe siècle, l'écurie désigne l'ensemble des écuyers et des pages d'une maison princière avec le sens spécifique de service des chevaux. Ce sont des gens qui se...
Qui se vouent à soigner le cheval. À le servir.
Et dans la seconde moitié du XVIe siècle, il se limite strictement à la fonction d'écuyer. Donc, c'est-à-dire ceux, au fond, qui montent les chevaux, qui éduquent les chevaux, mais qui ne tiennent plus tellement la fourche dans leurs mains.
Oui, mais en fait, ils sont à l'étude du cheval quand même.
Mais qui sont à l'étude du cheval. Oui, toi, tu professes effectivement que le cheval, c'est du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire c'est depuis la litière jusqu'à la transition, passage.
On commençait les petits pages commençaient déjà à aborder les chevaux, mais enfin, ils les abordaient vraiment que quand ils étaient écuyés.
Alors, écurie est issue du bas latin scutarius, qui nommait le soldat de la garde impériale qui portait un bouclier, le scutum, d'où l'écu. Donc scutum a donné l'écu. Et d'écurie en écu, on trouve enfin le mot écuelle qui en découle en raison de sa forme creuse et ronde. C'est vrai qu'une écuelle est creuse et ronde, un petit peu comme un bouclier rond. C'est un petit peu la même forme, en plus petit, bien évidemment. Et pour en terminer avec un clin d'œil vers la mythologie grecque, on peut dire qu'ils étaient bien négligents. C'est pas toi qui me démentiras, Jean-Yves, donc bien négligeant les palefreniers des écuries du roi Augias, puisqu'il a fallu qu'Hercule, pour les nettoyer, soit obligé de détourner le cours de deux fleuves du Péloponnèse, l'Alphée et le Péné. Donc là, franchement, les écuyers n'étaient pas terribles. Hein. Est-ce que tu en aimerais comme ça chez toi ?
Mais non, pas du tout, non, puisqu'il y a quand même une propreté à maintenir. Si vous voulez que le cheval soit bien, il y a les mouches, il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de. Les vers dans le crottin et tout, qu'il faut absolument éliminer.
Donc tu ne te vois pas en train de détourner les eaux du Séor parce que tu as eu un palefrenier négligent qui a laissé les écuries dans un état déplorable.
Non, parce que c'est vraiment le grand nettoyage.
C'est le grand nettoyage, voilà. Et puis on n'a pas toujours Hercule sous la main en plus, c'est embêtant. Voilà. Alors la semaine dernière, le messager du cheval a évoqué un peuple nomade d'Asie centrale, sans doute d'origine turco-mongole, dont le déferlement dans les Balkans et l'Europe occidentale au 5e siècle a causé l'un des traumatismes majeurs dont le souvenir reste de nos jours encore présent, les Huns. Et traumatisme tellement présent qu'au cours de la Première Guerre mondiale, la propagande britannique n'hésitera pas à désigner sous ce terme de « Huns » les soldats des armées allemandes. Donc vraiment...
Et Attila, leur chef, le fléau de Dieu.
Voilà. Alors, on va se replacer un instant dans le contexte économique et politique de l'époque. L'Empire romain d'Occident a déjà subi plusieurs désastres qui l'ont affaibli. Après le sac de Rome par les Visigoths en 410, le pillage en règle de l'ensemble de l'Empire par les Vandales de Genséric 45 ans plus tard, puis par les Hérules, un peuple d'origine scandinave qui mène un raid sur l'Espagne entre 455 et 460, puis ils vont s'établir sur les bords de la mer Noire, on voit que ça bouge beaucoup, et c'est en 404, 6 ans avant le sac de Rome par les Visigoths d'Alaric, que la capitale de l'Empire avait été transférée à Ravenne, c'est plus Rome, c'est Ravenne, donc par l'empereur chrétien Honorius, Ravenne qui est située au nord-est de l'Italie et proche de la mer Adriatique. Et à sa mort, Honorius laissera à ses successeurs un empire amputé d'une grande partie de la Gaule et de l'ensemble de la péninsule ibérique. Donc, ça commence à se rétrécir. Alors, c'est un peu une loi universelle. La nature, comme les peuples, on le vit dans horreur. La défense de la Romagna, qui est le nom donné aux possessions territoriales romaines d'Orient et d'Occident, est sous-traitée en quelque partie, en grande partie, par des peuples alliés. Mais ces alliances s'avèrent changeantes, opportunistes et trop souvent peu fiables. La Romagna a de plus en plus de mal à défendre ses frontières, les fameux limes, des incursions nomades venues de l'Est. Et parmi ces peuples, le peuple des Huns, conduit par un chef exceptionnel, Attila, hein, tu l'as dit, celui que l'Europe atterrée surnommera
le fléau de Dieu.
Le fléau de Dieu, Jean-Yves, c'est tout à fait ça. Alors Attila, né vers 395, devenu roi des Huns en 434, il partage dans un premier temps le pouvoir avec son frère Bléda, qu'il fera par la suite assassiner. On rigole pas chez les Huns. Pas rien que chez les Huns, du reste. Il règne sur la Pannonie, une ancienne région d'Europe centrale qui comprend l'ouest de la Hongrie et une partie de l'ex-Yougoslavie, ce qu'on appelait encore il y a quelques années la Yougoslavie. Alors, à la différence de ses prédécesseurs, les rois Rua et Octar, Attila ne semble pas vouloir annexer de nouveaux territoires. Au début, ça l'intéresse pas tellement. Malgré tout, les Romains d'Orient se méfient et prennent les devants en envoyant une ambassade rencontrer le chef des Huns pour négocier avec lui un traité de non-agression. Un accord est trouvé, Constantinople achète la paix en acceptant d'une part de verser un tribut annuel, alors d'abord de 200 livres d'or, puis de 700 livres d'or, qui est une somme considérable à l'époque, et d'autre part, de permettre aux Huns aussi de commercer librement. Les Huns disent, bon, vous nous donnez un tribut, du fric, et en même temps, vous nous laissez faire notre petit commerce tranquillement. Alors, ces deux clauses du traité procurent au chef Hun des revenus considérables, ce qui est nouveau, et revenus considérables qui lui permettent de s'imposer auprès des différentes tribus et de les fédérer en un seul et vaste ensemble soumis à sa seule autorité. Parce qu'au début, chaque tribu avait ses chefs et les membres de la tribu obéissaient à leurs chefs respectifs. Là, Attila réussit à fédérer tout le monde. Un petit peu ce qu'a fait Gengis Khan aussi.
Mais c'était quand même une tribu qui vivait, dépendait du cheval, puisqu'ils se déplaçaient avec leurs chevaux, et c'était des éleveurs. Donc, le cheval était tout pour eux.
Voilà. Alors, Constantinople, par malheur, si je puis dire, ne respecte pas les clauses du contrat, c'est-à-dire verse pas le fric, pour dire les choses simplement. Et c'est ce qui arrive en 440, puis en 443, deux fois. Bon. En représailles, des villes comme Viminacium, Nessus, Philippopolis et d'autres encore sont prises, pillées, incendiées et leur population décimée. Parce que Attila, il rigole pas. Hein. Je veux dire, quand il prend une ville, généralement, à part les puces et les cafards, il n'y a plus personne qui reste.
Il mettait le feu partout.
Voilà. Alors, Constantinople elle-même sera inquiétée. Alors, Constantinople ne sera jamais prise, mais elle sera sacrément inquiétée. Et si la paix est à nouveau négociée et signée, le tribut, lui, sera triplé. Bon, donc voilà, ça n'a pas été une bonne affaire. Donc il passera de 700 livres d'or à 2100 livres d'or annuels, ce qui est vraiment considérable, considérable. Et quand, 4 ans plus tard, en 447, Constantinople, une fois encore, oubliera de payer le tribut, Attila menacera en représailles d'envahir la Grèce et, selon ses propres mots, de la réduire en poussière. Et quand Attila dit « je vais réduire une province en poussière »,
il le fait.
Il faut l'écouter, parce qu'il ne se dégonfle pas. Alors, dans l'urgence, une ambassade est envoyée auprès du chef 1 pour négocier la paix. À sa tête, un notable du nom de Maximin, secondé par un fonctionnaire qui s'appelle Priscus. Et c'est grâce du reste à ce dernier que l'on aura la première description crédible d'Attila, de sa cour et de son palais. Alors, Maximin et son adjoint Priscus s'attendaient à découvrir une sorte de campement barbare, de tentes et de yourtes. Et quand ils pénètrent dans le camp d'Attila, en fait, ils pénètrent dans une petite ville aux maisons de bois qui entoure un vaste palais en bois lui aussi. En revanche, l'accueil que leur réserve le roi Hun est glacial, évidemment. Attila n'est pas content. Les reproches pleuvent. Non seulement, dit Attila, le traité a été violé puisque le tribut n'a pas été payé, mais pire encore, et ça vraiment c'est peut-être le plus grave pour lui, les armées de Constantinople se sont servies de mercenaires Huns pour le combattre, lui, Attila. Donc on a pris des gens de chez moi pour me casser la figure. Là, il est vraiment pas content. Alors malgré tout, un nouveau traité de paix finit par être négocié. Donc les ambassadeurs devaient être de très bonne qualité. Et cette première ambassade sera suivie par une seconde en 450 qui se conclura par la signature d'un accord de paix définitive entre l'Empire romain d'Orient et les Huns. Alors, si Attila a consenti à signer cet accord de paix avec l'Empire romain d'Orient, la raison est peut-être que le roi Hun médite une nouvelle chevauchée guerrière, plus à l'ouest cette fois. Un an plus tard, en effet, en 451, il organise une vaste expédition contre l'Empire romain d'Occident. Là, c'est un petit peu chez nous. Il choisit dans un premier temps la Gaule comme objectif, mais cette fois, la partie sera difficile. Attila devra se mesurer avec Aétius, qui fut sans doute le dernier grand général romain qui dirigeait de fait l'Empire romain d'Occident, un pouvoir immense qui sera la cause de sa perte 3 ans plus tard, comme nous le verrons par la suite. Alors, en plus, Aétius connaît bien les Huns. Dans son jeune âge, il avait été donné comme otage d'honneur chez les Huns pour garantir le respect des traités. Il parle leur langue, il connaît leurs coutumes. Le même a recruté des mercenaires Huns pour combattre les Visigoths installés à Toulouse, réprimer des révoltes paysannes ou encore contenir les tribus burgondes d'Allemagne. Mais accordons-nous maintenant une pause musicale avec Powder River, Jake Lee, Trying Not in the, pardon pour mon accent, Devil's Tail, c'est-à-dire en français, faire un nœud dans la queue du diable.
Way up high in the Siree peaks where the yellow jack pines grow tall, Buster Giggs and Sagebrush Sam had a roundup way last fall. Any old calf who flopped long ears, who didn't bush up by day, got his long ears chiseled and his old hide sizzled in the most artistic way. Says Buster Giggs to Sagebrush Sam as he throwed his long leg down, I'm getting tired of choreography, and I reckon I'll jog to town. They started out on the right smart lopers, worn no sight of a ride. And them was the days when a good cow punch could aisle up his inside. At the old Kentucky bar, they stopped near the end of Whiskey Row. And they wound up tight sometime that night, some 40 drinks below. And the house turned round and sat them up, started in the other way. Honest to goodness, tell the truth, the boys got stewed that day. Well, they both lit out for the Siree peaks, packing up a darn good load. And who should they meet but the devil himself, just a-prancing down the road. Confound you, ornery cowboy skunks, you better had a hunch you hold. For I am the devil from the hell's rim rocks, come to gather up your soul. The devil be darned, says Buster Giggs, we boys both know we're tight. But before you corral any cowboy souls, you'll sure have a beautiful fight. He throwed his rope and he throwed her straight. She spun down good and true. And he looped the devil by his pinted horns and he tuck his dallies too. Old Sagebrush Sam was a lariat man with his gut line.
Printemps 451. Attila et son armée franchissent le Rhin et pénètrent en Gaule. La ville de Metz est prise et incendiée le 7 avril. Après ce premier succès, Attila se lance dans une chevauchée au cours de laquelle il ravage le nord de la Gaule. De là, il redescend en direction d'Orléans qu'il met à sac. En revanche, il évitera Paris qu'il s'est défendu par de puissants remparts et dont les habitants ont été galvanisés grâce à l'énergie et à l'esprit de résistance d'une jeune femme qui sera béatifiée après sa mort. Jean-Yves, Sainte-Geneviève. Aétius, donc le général romain, a réussi à obtenir l'aide de Théodoric, le roi des Visigoths de Toulouse. Avant, ils étaient ennemis, ils se battaient, mais enfin bon, là, ils deviennent alliés. Attila fuit devant cette coalition. Là, il trouve que c'est quand même un petit peu gros pour lui. Il a compris que la Gaule, avec ses vastes forêts et ses champs cultivés, n'est d'équerre propice aux évolutions d'une cavalerie nombreuse. Hein, la cavalerie n'était pas trop à l'aise. Hein. Il préfère battre en retraite vers les frontières est du pays. Il est néanmoins rattrapé par Aétius et Théodoric, entre Chalon-sur-Marne et Troyes, près du bourg gallo-romain de Catalonum. Et c'est ici, le 20 juin 451, que se déroulera la bataille décisive qu'on a tous appris à l'école primaire, la bataille décisive pour la Gaule, et que l'histoire retiendra sous le nom de bataille des champs cataloniques. Entre parenthèses, les champs cataloniques vient justement de la ville de la bourgade gallo-romaine de Catalonum, qui a donné catalonique. Alors les deux armées s'affrontent, d'un côté Attila et ses alliés Gépit, Alain et Germain, de l'autre Aétius et Théodoric et ses Visigoths de Toulouse, ainsi que des auxiliaires levés par certaines tribus alains. Donc les alains étaient un petit peu des deux côtés. Le combat dure toute la journée, combat au cours duquel Théodoric du reste trouve la mort. Hein, le roi Visigoth trouve la mort. Le soir venu, Attila comprend qu'il a perdu la partie. Il dispose de ses chariots en cercle pour protéger son camp et donne l'ordre d'empiler les selles et les brides des chevaux pour y mettre le feu. Par parenthèse, les Huns disposent désormais de chariots qu'ils ont découverts au contact de l'Occident, alors que traditionnellement, on le sait, et selon leur pratique ancestrale de nomades, le transport de leurs bagages se faisait exclusivement à dos de chevaux et de chameaux. Hein. Ils n'utilisaient pas les chariots.
Alors, mules aussi, ils avaient pas mal de mules aussi.
Oui, les surtout chevaux. On n'en parle pas tellement des mules, hein. On parle chameaux,
chevaux. Oui, mais
chevaux,
c'était vraiment l'animal qui portait. Hein.
Oui, mais enfin, eux l'avaient pas tellement, parce que les ânes étaient sauvages et n'étaient pas domestiqués. Or, pour faire une mule, il faut un cheval et une ânesse, ou un âne et une jument. Alors, on raconte que le chef Hun aurait envisagé de se jeter dans le brasier plutôt qu'être fait prisonnier. Il se dit, bon, ben, on est fichu. Mais la curée n'aura pas lieu pour une raison encore inexpliquée. Ça, les historiens se demandent pourquoi. Le général Aesius n'ordonne pas l'assaut final. Attila peut alors se replier. Repli qui n'a pas été, comme cela a parfois été dit, un sauf qui peut, un général, une débandade, mais bien au contraire, une retraite parfaitement maîtrisée. Le chef Hun réussit donc à ramener dans l'ordre la plus grande partie de son armée pour la mettre à l'abri au-delà de la rive orientale du Rhin. L'année suivante, il n'est pas découragé, en 452, Attila mène une nouvelle chevauchée, cette fois dans le nord de l'Italie. Il saccage et brûle des villes comme Aquilée, dont les survivants iront se réfugier dans les îlots d'une lagune qui sera appelée à se forger un grand destin. Et c'est en effet à cet endroit-là que sera fondée deux siècles plus tard la ville de Venise. Après la prise de nombreuses autres villes, en particulier Milan, donc on est toujours dans le nord de l'Italie, Attila songe à marcher sur Rome. Alors il finit par y renoncer après que le pape Léon Ier réussit à le convaincre d'abandonner ce projet, de se retirer, lui et son armée, vers ses territoires d'origine, donc de la Pannonie. Alors bien sûr, on peut penser que l'intervention du pape, qui a été surmédiatisée, il faut bien dire, par le clergé de l'époque, n'a sans doute pas été inutile, ça a bien dû servir un petit peu. Mais en fait, ce sont deux événements majeurs qui ont convaincu le chef Hun de se retirer sur ses terres d'origine, en 451 et en 452 en effet, de profondes perturbations climatiques, anéantissent les récoltes et provoquent de grandes famines partout en Europe. Donc, dur de trouver du fourrage, dur de trouver à manger. Alors, surtout, en fait, c'est au cours de ces mêmes années qu'apparaissent en Occident les premières épidémies de peste. Bon. Et pour nombre d'historiens, ce sont ces épidémies qui auraient en fait été les véritables gagnantes de cette ultime chevauchée en Europe occidentale, d'Attila. Alors Attila meurt subitement l'année suivante, en 453, le lendemain de ses noces, avec une jeune fille du nom d'Ildico. Une légende assez tenace raconte qu'Ildico aurait empoisonné le roi des Huns, mais aucun fait probant ne vient étayer cette version. En fait, Attila aurait succombé à une hémorragie massive, puisque quand ses serviteurs l'ont trouvé saigné énormément par le nez, donc une hémorragie massive provoquée par une consommation excessive d'alcool au cours du banquet de mariage. Alors, les nomades, etc., étaient réputés pour boire énormément, mais là, ils avaient peut-être un petit peu, Attila avait peut-être été allé un petit peu trop loin.
Il buvait, il mangeait beaucoup aussi.
Donc, l'alcool est mauvais pour la santé. Alors, selon l'usage, sa dépouille est exposée dans une tombe de soie. Alors, écoute bien, Jean-Yves, l'élite de ses cavaliers organise une impétueuse course de cheval autour de cette tente de soie, au cours de laquelle il chante les exploits du roi défunt. Attila, placé dans un cercueil orné d'or, d'argent et de fer, les trois métaux les plus précieux de l'époque, sera inhumé au cours de la nuit. Avec lui sont enterrés ses chevaux qui sont sacrifiés, pas rien que dix, peut-être 50, 100, 150 chevaux, donc qui sont enterrés, ses armes, ses bijoux et ses objets les plus précieux. La cérémonie terminée, les fossoyeurs, souvent des prisonniers de guerre du reste, sont massacrés afin de garantir le secret de l'emplacement de la tombe. Tombe qui n'a toujours pas été retrouvée à ce jour et ne le sera sans doute jamais, parce que vraiment difficile. Alaric lui-même avait détourné le cours d'un petit fleuve pour faire creuser sa tombe, et une fois qu'il avait été enterré avec ses chevaux, etc., on avait remis le cours du fleuve au-dessus de sa tombe.
Bon, bien protégé.
Voilà. Et quant au général Aesius, il mourra en 454, assassiné par la propre main de l'empereur romain d'Occident, Valentinien III. Depuis la lutte sans merci entre Pompée et César, les empereurs romains ont bien compris qu'un général qui s'est couvert de gloire lors de campagnes militaires deviendra tôt ou tard une menace mortelle pour eux. Et Valentinien III, qui connaît bien son histoire romaine, a préféré prendre les devants. Alors, en une génération, le peuple des Huns disparaîtra de l'histoire aussi vite qu'il est apparu. L'empire d'Attila, qui s'étendait de la mer Baltique aux confins de l'Asie centrale, des rives de la mer Noire jusqu'au nord de la Grèce, de la rive orientale du Rhin au delta du Danube. Cet empire, à l'image de celui d'Alexandre le Grand près de 8 siècles auparavant, ou encore celui de Gengis Khan 7 siècles plus tard, aura été aussi éphémère que l'empreinte d'un sabot Jean-Yves sur le sable des grands déserts orientaux. Alors, à lire Atlas de Rome et des barbares de Hervé Englebert, professeur d'histoire romaine à l'université de Nanterre, aux éditions Autrement. Attila, la violence nomade de Michel Rouge, professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne, et c'est chez Fayard. Alors, ces deux ouvrages sont disponibles, vous pouvez les trouver à la médiathèque de Rodez. Jean-Yves, pourquoi montons-nous et descendons-nous toujours du côté gauche du cheval?
Mais ça, c'est parce que jusqu'au siècle dernier, les gens qui montaient à cheval étaient des gens d'épée. Ils avaient une épée au côté gauche. Donc, avec une épée au côté gauche, on ne pouvait pas monter à gauche. On ne pouvait pas monter à droite. Il fallait monter à gauche. Voilà pourquoi. Et donc, on a gardé ce principe-là. Quoique maintenant, dans les compétitions et partout, on demande aux cavaliers de monter, de descendre à gauche et inversement à droite. Il n'y avait que les cow-boys qui descendaient à droite. Quand ils avaient pris un veau au lasso, ils sautaient à droite pour tendre le lasso et pour tenir le veau. D'accord. Voilà l'explication.
Alors, l'agenda, retenez cela, parce que c'est cette semaine, le 23 et le 24 juin prochain, se tiendra la seconde foire aux chevaux de Mont-Laur, près de Saint-Afrique. La première a été un grand succès, donc la seconde sera un plus grand succès encore. C'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mardi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui.
Non pour s'en servir, mais pour le servir.
Bravo Jean-Yves. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9 et de CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci de nous rester fidèles.
À la semaine prochaine et un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.
Chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Droit et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, d'aigle mort à Rodez, en passant par Salmiers, du Languedoc au Rouergue, après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Millau, les Vézous, Salmiers, milieu du Seine, patrie de Béranger, de l'Andorre, capitale du Rouergue de Rodez, entrez dans la légende.